Je vais vous présenter ce soir Charlotte de Castelnau d'Étoile, qui est historienne spécialiste de l'histoire moderne, directrice du laboratoire Culture-Territoire de l'Université Paris-Diderot, spécialiste de l'esclavage, de l'histoire coloniale, de l'Amérique portugaise et du catholicisme à l'époque moderne. Donc, Charlotte a déjà publié un livre sur, issu de votre thèse, donc Les ouvriers d'une vigne stérile, donc sur les missions des jésuites au Brésil. Et votre habilitation porte aussi sur le catholicisme colonial. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur le mariage dans la société brésilienne coloniale. Et on va parler ce soir donc de Pasque et ses deux maris, qui a un récit qui comporte, à mon avis, plusieurs récits, et je dirais même plusieurs genres littéraires et historiographiques. Donc, il est tout d'abord une biographie d'esclave, donc de Pascoa Vieira, une esclave angolaise qui va être embarquée au Brésil, et puis jugé au Portugal par le tribunal de l'Inquisition. Et donc c'est de la micro-histoire du fait que c'est une biographie d'esclaves. Ensuite, c'est aussi une histoire des circulations, une histoire connectée, étant donné que l'histoire de l'esclavage, justement, embrasse tout l'Atlantique sud. Donc, on pourrait même dire une histoire globale. C'est aussi le récit de votre enquête, parce que vous, tout au long du livre, vous vous posez plusieurs interrogations, plusieurs hypothèses en tant qu'historienne. Et finalement, je dirais que le livre a quelque chose d'un autre genre, il a quelque chose aussi du roman. J'ai dit ça, c'est tout à fait positif, hein, je suis littéraire à la base, parce que vous suivez la chronologie du procès de Pasque, c'est un procès pour bigamie, hein, comme le titre indique. Et en fait, la façon dont vous racontez cette histoire, en fait, vous nous tenez en haleine. En fait, il y a tout un suspense qui va se résoudre à la fin. Et donc, cet esclave, Pasque Vieira, apparaît comme un véritable personnage, un personnage tout à fait humain, donc avec un parcours qui est unique par son histoire de vie, par la particularité de son histoire, mais qui est aussi exemplaire, en fait, d'un parcours de l'esclavage. Et donc, je dirais que si ce livre a quelque chose du roman, c'est par sa construction, en fait, qui a une construction un peu romanesque. Et d'ailleurs, le titre fait un clin d'œil à cet aspect romanesque, parce que vous faites allusion à Jorge Amado avec donc Pasque et ses deux maris, Dona Flor et ses deux maris, qui est un roman de Jorge Amado de 66 qui va être adapté au cinéma 10 ans après, en 76. Et donc, et dans l'épigraphe, les clins d'œil deviennent plus explicites, parce que vous prenez un extrait du roman où on voit que finalement, ces deux mariages de Dona Flor, c'est une stratégie, en fait, une stratégie d'une femme plusieurs fois subalterne, en fait, pour pouvoir concilier, en fait, désir et morale, donc pour pouvoir s'en sortir dans cette société brésilienne. Donc j'arrive peut-être à ma première question qui va vous permettre de présenter le roman. Justement, c'est la question qui apparaît, qui pour moi est le fil conducteur en fait de tous les romans, la question du mariage dans cette société coloniale brésilienne, qui permet en fait de concilier catholicisme et esclavage, et en fait d'apaiser cette société. En fait, le mariage devient un vrai enjeu en fait pour que cette société où les esclaves sont beaucoup plus nombreux que les maîtres puissent tenir en fait sans s'effondrer. Je pense qu'on pourrait commencer par l'enjeu en fait de cette histoire de l'enjeu du mariage et l'histoire de Pâques. Pourquoi cette histoire en fait pour raconter l'importance du mariage des esclaves dans cette société coloniale?
D'accord. Merci beaucoup, Ilana Heineberg. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je présente mon livre avec une Brésilienne. Ah. Je vais aller le mois prochain au Brésil, donc et en plus une littéraire, et donc je suis très très heureuse parce que effectivement vous avez mis le doigt sur beaucoup de choses en fait qui pour moi ont été importantes. Et évidemment l'allusion à Jorge Amado, et ça c'est les Brésiliens qui le voient. Du coup, qui voit aussi que Pascoa est une vraie baïanaise. Mais bon, alors pour répondre à votre première question, qui est vraiment centrale et qui est d'habitude la question finale, mais bon, vous me la posez d'emblée, cette question du mariage dans la société esclavagiste brésilienne, c'est effectivement un sujet sur lequel j'ai consacré beaucoup de temps et de travail. L'histoire de Pascoa est en fait un cas que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches, un cas que j'avais mis de côté et que j'ai repris une fois l'autre ouvrage sur le mariage terminé. Et donc, que représente le mariage dans cette société esclavagiste? Vous l'avez dit, c'est un point vraiment central. Ça a été pour moi l'objet d'une enquête de 15 ans. Qui a commencé autour de textes importants, le texte du pape, une déclaration pontificale à la fin du XVIe siècle sur le mariage des Africains et des Indiens dans le Brésil. Donc c'était vraiment bizarre de trouver un texte pontifical sur cette question. Et en fait, c'est un texte très important parce que qui a été produit par le pape à la demande des jésuites du Brésil, qui voyaient cette société du Brésil de la fin du XVIe siècle comme une société très esclavagiste, constituée à la fois d'Indiens et d'Africains qui arrivaient dans cette société. Et la question du mariage est extrêmement importante, parce que c'était la manière dont on pouvait dire que cette société allait être une société catholique. Si on ne peut pas marier toute une part importante des membres de cette société, c'est pas une société catholique, hein, parce que, et même ça devient difficilement une société chrétienne, parce que baptiser des gens sans pouvoir les marier, c'est très compliqué pour des ecclésiastiques de la fin du XVIe siècle, parce que c'est laisser les gens dans un état de péché. Bon, donc j'ai découvert cette bulle sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, puis après, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé des textes étonnants, et notamment une pétition d'esclaves au pape du début du XVIIIe siècle, l'époque de Pascoa, sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à se marier parce que les maîtres leur interdisaient le mariage auquel ils avaient droit. Et je me suis aperçue, alors ça a été le début de toute une recherche, que effectivement les esclaves considéraient dans le Brésil colonial le mariage comme un droit. Et un droit qui leur permettait d'avoir une certaine autonomie dans cette société très dure pour eux. Et alors, c'est un mariage limité en termes de droits civiques. Ils n'ont pas d'autorité paternelle sur leurs enfants ni maternelle. Les enfants appartiennent au maître. Mais ils ont le droit de se marier librement, de choisir qui ils veulent pour conjoint, sans demander l'autorisation de leur maître. Et donc c'est quelque chose d'important, et l'histoire de Pasqua prend sens dans cette société où Pasqua, comme vous l'avez dit, va... enfin, alors il faudra peut-être que je raconte, je ne sais pas,
oui,
pour le public qui n'a pas lu le livre, mais Pasqua, c'est quelqu'un qui va se marier deux fois. Une première fois dans sa vie en Angola, et puis une deuxième fois dans sa vie au Brésil. Et puis, elle va aussi défendre, et son mari avec elle, ses droits de femme mariée. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, et donc vous avez eu raison, c'est à la fois la question de l'enquête inquisitoriale, mais aussi ce que représente le mariage pour les esclaves dans leur vie, et comme moyen de consolider des espaces d'autonomie, de liberté. Alors bon, le mariage n'est pas toujours vu comme un espace de liberté, mais c'est quand même un peu la liberté, parce qu'ils ont le droit de se marier avec qui ils veulent. Voilà. Donc, voilà. C'est...
Je pense que bon, la question des archives, elle est aussi très importante, parce que pour construire ce récit, il y a l'archive de la Torre do Tombo, de l'Inquisition, où il y a le procès de Pasqua, mais que vous allez croiser justement avec d'autres sources. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment vous avez travaillé sur toutes ces sources justement pour construire cette histoire et poser les questions historiographiques au fur et à mesure.
D'accord. Alors en fait, les sources inquisitoriales sont bien connues des historiens parce que c'est des sources étonnantes qui permettent de rentrer dans la vie de ceux qui ont été accusés par l'Inquisition, et même parfois un peu dans la psychologie des accusés, parce que dans les sources inquisitoriales, quand il y a procès, donc il y a toute une investigation judiciaire avant le procès, du coup on a beaucoup de témoignages croisés sur les accusés, et puis une fois que le procès s'enclenche, on a un face-à-face entre l'accusé et les juges. Et là, c'est des moments où pour tous les historiens qui ont travaillé sur ces sources, surtout quand c'est des sources complètes, comme celle du tribunal du Portugal, il y a vraiment un frisson qui passe, parce qu'on se met à la place de l'accusé, on voit les questions des inquisiteurs qui mènent les interrogatoires avec beaucoup de dureté. Ils ne lâchent jamais rien. Et donc, on rentre vraiment dans le face-à-face, et c'est là où on a le sentiment qu'on s'approche et que la personne sur laquelle on travaille prend vie, parce qu'on voit les réponses, les silences, le refus de suivre l'inquisiteur là où il veut vous emmener. Bon, voilà, donc c'est très... c'est plein de vie, ces sources inquisitoriales. Alors, ces sources, on peut les retrouver sur n'importe quel ordinateur, parce qu'elles sont numérisées aux Archives nationales portugaises. Et une fois que j'ai lu le procès de Pasqua, bon, voilà, la question, c'est est-ce qu'on peut sortir de la source unique ? Est-ce qu'on peut croiser avec d'autres ? Est-ce que quelqu'un d'autre avait entendu parler de Pasqua ? Une esclave, en général, il n'y a pas de traces des esclaves. Ce sont des gens qui ont peu de droits, quasiment aucun, dont on peut voir des noms par-ci, par-là, dans les archives des paroissiales. Mais bon, voilà. Alors, j'ai cherché d'autres sources, alors plutôt sur d'autres acteurs de l'histoire. Le maître de Pasqua, qui est quand même quelqu'un d'important dans mon histoire, parce que c'est lui qui dénonce Pasqua. Mmh. Donc, je voulais en savoir plus. Pourquoi le notaire de la ville de Bahia, en 1693, décide de dénoncer son esclave pour bigamie. Voilà, alors c'est un notaire.
Ça, c'est peut-être intéressant d'en dire un peu plus, parce qu'il a quand même...
Oui, c'est un personnage.
Il est lui-même un peu coincé, en fait.
C'est ce que je crois, parce que... c'est des hypothèses d'historien, mais qu'est-ce que j'ai retrouvé sur lui ? Je retrouve dans les archives civiles de la ville de Bahia et puis de la couronne portugaise sur ses colonies, mention de ce maître qui est donc un notaire, Francisco Alvarez Távora, qui est né au Portugal, qui vit à Salvador de Bahia, qui a apparemment pas mal d'argent, qui fait des prêts, mais qui a une position sociale assez fragile. Il n'est pas un notaire en titre, il est un notaire remplaçant. Et donc, tous les 3 ans, il doit redemander à la couronne portugaise confirmation de ses droits de notaire, de sa charge de notaire. Et donc, il me semble que c'est peut-être pour ça que lorsque son cousin, qui vient d'Angola avec un autre capitaine de navire, qui arrive chez lui et qui lui dit « Cette esclave-là, je la connais, elle habitait en Angola et en Angola, elle était mariée », Francisco Alvarez Távora, il est un peu coincé parce que plusieurs personnes l'ont reconnu. Donc, si lui ne va pas dénoncer son esclave à l'Inquisition, c'est d'autres qui vont le faire pour lui.
En plus, c'était un marin, donc il fallait qu'il se...
Je ne suis pas
probablement.
Sûre. Je ne suis pas sûre qu'il soit un marin, c'est-à-dire un nouveau chrétien d'origine juive, ceux qui sont toujours suspectés dans la société portugaise de pouvoir être de mauvais chrétiens. Donc, il n'a pas envie d'ennui avec l'Inquisition. Je n'ai pas de preuves. Mais vu son réseau, vu sa situation, c'est probable. Voilà, donc il va dénoncer Pascoa. Et apparemment, ils n'ont pas de mauvaises relations. Ils restent ensemble. Elle reste son esclave. Et il va la franchir le jour de son arrestation, parce qu'il ne veut pas payer le voyage à Lisbonne. Donc Pascoa passe du statut d'esclave à celui de prisonnière. Elle était déjà esclave en Angola, donc c'est une femme qui a toujours été une subalterne, une dominée, mais en même temps, c'est vrai qu'elle a beaucoup de force. Et voilà, alors, et à la fin de l'histoire, elle va... est-ce que je le dis ou je ne le dis pas ? Après, c'est des débats. Mais elle va demander à revenir chez son maître.
Voilà, finalement, c'est la seule solution qui lui reste, en fait.
Je pense que c'est la seule solution qui lui reste. Après avoir purgé sa peine au Portugal, qui est un exil au sud du Portugal, elle va, et là encore, c'est un signe de sa résistance et de sa résilience... elle va écrire à l'inquisiteur général du Portugal, donc elle n'a jamais peur de rien ni de personne, Pascoa. Elle n'écrit pas directement puisqu'elle ne sait pas écrire évidemment, mais elle fait écrire par des inquisiteurs pour demander une diminution de sa peine et qu'elle obtient. Et elle demande de rentrer au Brésil parce qu'elle n'a pas les moyens de survivre au Portugal. Donc ça c'était la source sur le maître, donc en croisant avec d'autres. Donc quelque part, pour l'historien, c'est toujours rassurant parce que nous avions hier l'occasion d'entendre le grand maître de la micro-histoire, Carlo Ginzburg. C'est la source unique est toujours dangereuse en histoire parce que il faut toujours croiser. Donc j'ai pu croiser là sur le maître, et puis j'ai pu croiser aussi sur ce personnage très intéressant qui est le missionnaire capucin qui a marié Pascoa en Angola en 1676. Le père Giovanni da Romano, qui est un Italien, envoyé en Angola par Rome et qui a écrit un certain nombre de textes. Et il y a des textes entre la propaganda fide, c'est-à-dire l'instance de contrôle de ces missionnaires du monde entier, et ce Giovanni da Romano. Donc, j'ai retrouvé les sources de Giovanni da Romano et la version que Pascoa donne aux inquisiteurs, qui est de dire, en Angola, ce missionnaire ne m'a pas mariée sacramentellement. Ça a été juste une cérémonie des anneaux, c'est-à-dire pas un vrai mariage sacramentel. Donc, je peux me remarier, je pouvais me remarier, donc je ne suis pas bigame. C'est la thèse de Pascoa. En croisant avec les sources de ce missionnaire, j'ai retrouvé la manière dont ce missionnaire faisait les mariages d'esclaves en Angola. Donc là, j'avoue que pour l'historien, ça, c'est des moments effectivement de jouissance, quand tout d'un coup, on retrouve le personnage sur lequel on travaille, et puis on voit qu'il a écrit sur le mariage, et puis qu'il a lui-même raconté comment il mariait les esclaves. Et donc, je peux même dire que j'en sais presque plus que les inquisiteurs. Et donc, je crois que Pascoa avait raison. Le missionnaire capucin l'a sûrement marié de manière un peu bricolée, sans faire un mariage sacramentel, exactement comme celui qu'elle a eu au Brésil.
Ça faisait un peu partie des stratégies de conversion de l'époque. Les jésuites au Brésil aussi, ils passaient souvent par le théâtre pour la conversion. Donc il y avait beaucoup de stratégies justement pour pouvoir convertir. Et je pense que
voilà.
Ça...
Et alors c'est ça qui est étonnant dans le livre, dans le procès, c'est que Pascoa raconte elle-même son mariage. Et ça, dans les sources missionnaires, les missionnaires écrivent toujours et racontent. Mais les missionnés racontent rarement ce qui leur est arrivé. Et là, Pascoa raconte le mariage et elle raconte comment les capucins les a fait asseoir en rond, comment il a sorti de sa poche une bourse, comment il a distribué les anneaux, comment il a fait passer les anneaux des doigts des femmes aux doigts des hommes.
Et dans un mariage collectif.
Dans un mariage collectif.
Qui fait beaucoup penser, j'extrapole un peu au présent, mais ça me fait beaucoup penser aux églises évangélistes aujourd'hui au Brésil, en fait.
Et même aux églises catholiques, j'ai assisté à des mariages collectifs au Brésil.
Catholiques ?
Oui, catholiques aussi. Et je pense que c'est un héritage de l'esclavage. Mmh. Il y a des mariages collectifs au Brésil dans les milieux populaires. Donc je pense que c'est une forme de... Enfin voilà, du coup, ça aussi, je pense que c'est une source étonnante d'avoir pu croiser ça.
Une autre chose que je trouve passionnante, c'est l'impression qu'on a avec cette histoire d'une simple esclave d'un monde complètement connecté en fait à cette époque en fait, donc par la communication de l'Empire portugais. Donc ce cousin, est-ce que c'est une énorme coïncidence ou est-ce que c'était un petit monde, ce cousin qui va finalement arriver, dénoncer. Donc bon, on sait qu'on est dans un réseau en fait entre l'Afrique et le Brésil en fait, parce que finalement c'est pas pour rien que Pascoa, comme vous montrez, arrive au Brésil. Mais finalement, voilà, ce monde très connecté, notamment entre l'Afrique et le Brésil, en fait. Est-ce que
oui, alors ça,
vous
c'est...
pouvez en dire un peu plus?
Les historiens, ça fait déjà longtemps qu'on parlait de l'Atlantique Sud, et notamment au XVIIe siècle, pour montrer les liens intenses qui existent des deux côtés de l'Atlantique, entre le Brésil et l'Afrique. Donc, juste quelques chiffres. Hein. Il y a 375 000 esclaves qui arrivent au Brésil à la fin du XVIIe siècle, dans les 25 dernières années du XVIIe siècle. 450 000 pour les 25 premières années du XVIIIe siècle. Hein, ce sont des chiffres énormes. Le Brésil a reçu 6 millions des 12 millions d'esclaves qui ont fait la traversée de l'Atlantique. Le Brésil est sans aucune comparaison le plus grand réceptacle d'esclaves africains de l'Amérique. Les chiffres, par exemple, de l'Amérique du Nord, des États-Unis, c'est très, 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 très limité par rapport au cas brésilien. Donc... Évidemment, il y a ce flux massif. Mais il n'y a pas simplement des esclaves qui circulent entre le Brésil et l'Angola. Pardon. Il y a aussi des ecclésiastiques, des marchands, bien sûr les marchands de la traite, des fonctionnaires de la couronne. parmi les gens qui reconnaissent Pasqua, il y a un cousin, il y a un capitaine de navire, il y a aussi des séminaristes hein, qui sont venus au Brésil se faire ordonner. Donc voilà, en fait, dans ce monde-là, on traverse l'Atlantique, comme nous aujourd'hui, on prend le TGV entre Paris et Bordeaux, à peu près. C'est-à-dire que ça circule énormément. Et donc, c'est pas tout à fait le hasard, c'est pas qu'une coïncidence, parce que plusieurs personnes reconnaissent Pasqua. Il y a une société que les historiens appellent une société d'interconnaissance. C'est-à-dire que bon, c'est une société où on se parle beaucoup, il y a beaucoup de réseaux, les gens se connaissent, se reconnaissent. Surtout dans ce monde catholique où la question des sacrements est importante, et en fait, pas que pour les esclaves, pour n'importe quel type de gens dans l'Empire portugais, la bigamie est très surveillée. Et donc, pour n'importe quelle personne qui se marie quelque part dans l'Empire portugais, on fait une enquête pour savoir s'il n'était pas marié à un autre moment, s'il n'était pas marié au Portugal, s'il n'était pas... Donc voilà, ces enquêtes sont quelque chose d'habituel. Et puis alors, ce que montre aussi cette affaire qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Pasqua va arriver à susciter des lettres de la part de sa mère.
Ah oui.
Par l'intermédiaire de sa mère, elle va obtenir une lettre de son parrain d'Angola, qui est un prêtre en Angola, et qui va écrire une lettre pour dire que Pasqua n'était pas marié en Angola.
Oui.
Donc ça, c'est, pour moi, c'est une des pépites du procès.
Ah oui.
Parce que ça veut dire que une esclave du XVIIe siècle est capable, entretient encore des réseaux avec sa patrie d'origine. Alors, c'est très particulier, hein, Pasqua n'est pas n'importe quelle esclave, c'est plutôt une esclave domestique, elle était déjà esclave dans un milieu portugais, elle reste en milieu portugais. Donc, il n'y a pas cette grande rupture que les historiens de l'esclavage habituellement montrent par le passage du milieu. Mais bon, ça fait déjà un certain temps que les historiens de l'esclavage insistent sur ce lien entre l'Afrique et l'Amérique. Et la vie de Pasqua le montre d'une manière qui, je crois, est exemplaire. Donc ça, c'est un des points intéressants aussi du procès. Et puis l'idée que, voilà, il y a des lettres qui circulent dans l'Empire portugais à destination d'esclaves. Donc ça, certains historiens le montraient déjà pour le début du XIXe siècle. Mais fin XVIIe siècle, je pense que c'est vraiment une nouveauté. Et voilà, alors les lettres, elles sont envoyées de l'Angola, sans doute, à l'église centrale de Salvador. Et il y a dessus écrit, sans doute, pour Pasqua, esclave de tel maître. Et la lettre circule et lui parvient. Et elle peut la présenter à l'évêque de Salvador. Voilà. Donc, les réseaux... Voilà, mais bon, vous êtes brésilienne, donc vous le savez aussi très bien. Nulle part en Amérique, l'Afrique est aussi présente qu'au Brésil.
Oui, surtout à Bahia.
Voilà, surtout à Bahia. Ce sont des villes vraiment façonnées par l'esclavage et du coup par la présence africaine.
Voilà. Et vous avez mentionné cette lettre du parent ou d'un des parents de Pasqua. Et ce que je trouve très intéressant dans cette lettre et qui m'a beaucoup surpris, en fait, bon, c'est vrai qu'il a écrit pour dire qu'elle n'avait pas été mariée, mais donc pour la défendre. Mais à la fin, il dit qu'il n'a pas pu lui envoyer des tissus. Donc, ce réseau, il marche aussi pour des choses qui sont un peu secondaires. Ça montre qu'il y a vraiment un va-et-vient, une communication assez poussée. Un autre commentaire, je pense que vous pouvez peut-être rebondir sur les deux choses à la fois. Je pense que tous les documents contribuent aussi à beaucoup nuancer la vision qu'on a de l'esclavage, en fait, notamment de la relation maître-esclave. Bien sûr, c'était une relation de domination, bien sûr, c'était une relation très violente, mais on voit que Le maître avait quand même des relations assez proches. En fait, il la dénonce, mais il était un peu coincé. Il ne pouvait pas faire autrement. Et on voit aussi qu'en quelque sorte, bon, pour elle, c'est une solution quand même de redevenir esclave, en fait, finalement. Bien sûr, elle n'avait pas une autre solution. Mais il y a quelque chose dans cette histoire qui nous permet de presque voir comme la complexité, en fait, de ces relations. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est difficile parce que moi, je ne trouve pas. Je trouve que la vie de Pasqua, elle est vraiment marquée par l'esclavage du début jusqu'à la fin d'une façon très dure.
Oui, c'est évident. Oui.
D'une façon très dure parce que, elle est née esclave en Angola, dans la même famille que sa mère et que sa grand-mère. Donc, un esclavage assez stable. Et puis, elle est punie, en fait. C'est pour ça qu'elle est envoyée au Brésil. Elle est punie parce que c'est une esclave désinquiète. Donc, une esclave fugitive, agitée, qu'elle va avec d'autres hommes que son mari, qu'elle fuit son maître. Donc, déjà, sa première condamnation à l'esclavage atlantique est une histoire violente, on l'arrache à sa terre d'origine, elle est embarquée, comme disent les sources, et c'est une punition. On le voit bien que c'est une punition parce que tous les témoignages le disent, et puis parce que son mari ne veut pas l'accompagner. Et il dit clairement, donc il est interrogé 20 ans après par l'Inquisition, enfin, ou 15 ans après, il dit « je n'avais commis aucun crime, donc je n'avais aucune raison de partir au Brésil ». Donc, c'est vraiment une punition. Donc, elle a cette punition, d'abord, parce qu'elle est esclave. Ensuite, c'est une femme, effectivement. Alors, c'est ça que montre plutôt le procès et l'histoire. C'est des formes de résistance à l'esclavage. Mais je ne trouve pas que ça rend le système moins dur. Parce que, donc, elle arrive chez son maître. Et là, effectivement, elle recommence sa vie. Elle se marie avec un esclave de son maître. Donc c'est une femme habile, au sens où elle n'est pas détruite, elle rétablit des relations, etc. Mais ensuite, il va lui arriver cette histoire de l'Inquisition. Et jamais on va prendre en compte le fait qu'elle a été esclave toute sa vie. Et donc les inquisiteurs vont toujours l'interroger comme si elle était libre, comme si elle avait été libre de ses mouvements, que c'est elle qui avait décidé de quitter l'Angola, que c'est elle qui avait décidé... Or, en fait, elle a été vendue. Donc, vous voyez, on la traite comme une personne libre, mais c'est d'autant plus injuste parce qu'elle n'était pas une personne libre. Et donc, elle a été forcée de quitter l'Angola, forcée d'arriver au Brésil. Elle a essayé de reconstituer sa vie. Et donc, elle a une vie quand même très dure parce qu'elle a été esclave une fois, esclave une deuxième fois, prisonnière de l'Inquisition. Et quand elle décide de rentrer au Brésil, elle retourne chez le maître, mais comme vous l'avez dit, elle n'a pas vraiment le choix. Donc c'est quelqu'un qui... l'esclavage est une réalité. Donc elle sait qu'elle ne peut pas tellement en sortir, mais elle s'accommode dans les interstices de l'esclavage. Mais elle est quand même vraiment marquée. Je réagis un peu parce que j'ai eu aussi un débat il n'y a pas longtemps... quelqu'un m'a dit c'est une histoire un peu comme Chica da Silva. Je dis non, pas du tout.
Non,
c'est une esclave ordinaire qui a Chica da Silva, c'est très connu au Brésil parce qu'elle a épousé, elle a été la concubine du plus grand officier de la couronne portugaise, celui qui était responsable du contrat des diamants au Brésil. Donc elle a été une femme super importante, très riche. Elle a eu 10 enfants. Ses enfants, ses fils sont devenus des membres de l'aristocratie portugaise, ses filles sont rentrées ont fait des mariages, sont rentrées dans les couvents, etc. Pasqua est une esclave très ordinaire. Et toute sa vie ne s'explique que par l'esclavage. Voilà. Mais ce que j'ai voulu montrer, ce que je crois en ayant travaillé sur ces sources, c'est que malgré l'esclavage, elle reste une femme résistante, résiliente, qui a sa petite liberté de manœuvre à l'intérieur d'un système très oppressif.
Voilà. Et qui arrive finalement à trouver des bons arguments pour se défendre aussi. Ça, je trouve très étonnant quand elle emploie le terme « la cérémonie des anneaux ». Ça veut dire qu'elle a compris, en fait, peut-être qu'elle a été aidée, mais qu'elle a compris qu'il fallait absolument utiliser une argumentation autour du rite du mariage et de montrer, en fait, que c'était pas qu'elle n'était pas tout à fait, ce premier mariage n'était pas tout à fait dans les règles.
Donc, oui. Alors, ce qui est clair, et les inquisiteurs le disent, puisqu'elle a un avocat. Dans les procès inquisitoriaux, on avait un avocat commis d'office, alors qu'il va la défendre un peu maladroitement en disant « Oh là là, c'est une femme africaine un peu rude. Hein, » c'est l'expression. Quoi. C'est une africaine, donc elle est rude. Et les inquisiteurs répondent « Non, elle est très intelligente. » Et donc, c'est vrai qu'elle était intelligente, elle a très très bien compris le système.
Mieux que l'avocat, il me semble.
Mieux que l'avocat, mais l'avocat, il essaye maladroitement de prendre un argument, de dire, bon, elle n'était pas éduquée, elle n'a pas compris ce qui se passait, mais peut-être que d'ailleurs ça aurait été plus efficace. En tous les cas, les inquisiteurs, sont tout à fait persuadés, et on le voit bien dans le procès, c'est une femme qui a compris le système juridique, et son mari de Salvador, quand il a été vendu par le notaire, parce que comme ils étaient considérés comme bigames, ils ne pouvaient pas rester ensemble, il a été vendu. Et il a été vendu au juge ecclésiastique de la ville. Donc sans doute son mari est assez fort aussi en droit, hein, parce que les esclaves au Brésil sont tellement nombreux que vous avez des esclaves à talent, comme on dit. Hein, des esclaves qui peuvent avoir un rôle de secrétaire. Alors, lui, je ne crois pas qu'il écrive, mais bon, c'est quelqu'un qui sûrement a des connaissances en droit. Et alors là, je rajoute juste une chose, puis peut-être après, on laissera le public poser des questions. Mais sur les sources, comme je l'ai dit, mon travail s'appuie aussi sur un travail en amont. Et donc, j'ai travaillé sur des procès d'esclaves au tribunal ecclésiastique à Rio de Janeiro, et sur 75 cas qui sont contemporains. Et j'avais déjà vu dans ces sources, hein, combien les esclaves, certains étaient habiles, intelligents, connaissant très bien leurs droits, leurs devoirs, jouant sur la protection de l'Église contre leur maître. Bon, vous voyez. Donc, Pascoa, elle est... Alors ça, c'était un débat avec l'éditeur. Il me disait, c'est une femme exceptionnelle. Je dis, oui, c'est une femme exceptionnelle, mais ce n'est pas vraiment une femme exceptionnelle parce que c'est une femme ordinaire et elle se défend de manière exceptionnelle. Mais je lui dis, beaucoup de femmes se défendent de cette façon. Et effectivement, dans les sources que j'avais travaillées, les femmes m'étaient apparues comme très habiles, comme souvent développant des stratégies fines. Voilà. Donc, Pascoa, elle est bien représentative de ces femmes qui voilà, savent manœuvrer dans des situations difficiles. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre écoute.
Merci, Charlotte.